et vous écrirez le commentaire, quand Moïse était enfui par crainte dans l'épisode de Midian, et Tzipora a circoncis son fils. Et le verset dit « Hatam damim la moulot »« Tu es prince du sang pour les circoncis au féminin. » Et le pshat de la moulot, ça veut dire « Les femmes sont moulotes de nature. » Bon, c'est un sujet pour lui-même, je me prépare du... Donne-nous le contexte. Dans chez moi, Ken. C'est-à-dire que les femmes sont des êtres de nature, attention, il y a ici un sujet pour lui-même, je vous avertis, mais elles sont déjà plus dirigées vers cette surnature que l'homme masculin doit acquérir par une discipline extraordinaire des mitzvot réglant le temps, alors que les femmes sont réglées dans le temps par la naturellement. C'est clair ?
Ou qu'elles ne sont pas capables de se parfaire. Ou alors elles ne sont pas capables de se parfaire et elles naissent déjà ce concile dans les rétablissements.
J'ai pas entendu.
Elles ne sont pas capables de se parfaire et donc...
Laissez-la parler. Hein. J'ai encore pas entendu parler seule. Non, vous savez, il y a aussi une tendance au pessimisme partout, mais... Non, c'est plutôt ce que je dis. Voilà, c'est clair. J'ai pas dit ça. C'est un sujet autre, Ken. Je veux dire une chose, une minute et je vous donne la parole. L'expérience m'a appris et mes maîtres m'ont confirmé. Un homme ne peut pas, masculin ne peut pas comprendre qu'est-ce que c'est une femme féminine. Et l'inverse. Une femme ne peut pas comprendre ce que c'est qu'un homme. On joue à croire que c'est la même chose. Et c'est pas la même chose. Il y a une, c'est un autre monde, le monde féminin, le monde masculin. Bon, c'est les polarités. Nous sommes dans une génération où ça commence à se dévoiler. Mais le Talmud en parle. Il y a quatre catégories d'individus. Il y a le Zahar, la Nekeva, le Tumtum et l'Androgynos. On a caché tout ça. Et maintenant, c'est dans les journaux. On sait très bien qu'il y a quatre sortes d'individus et il y en a même cinq. Et vous savez ça, top. Ça se dévoile. Il y a très peu de femmes qui sont des femmes, il y a très peu d'hommes qui sont des hommes. La majorité sont un peu comme ça, ni comme ça, ni comme ça. Enfin, nous avons cinq catégories dans la halakha. Et alors, ça se dévoile. Maintenant, c'est dans les journaux, ça nous vient d'Amérique, ce dévoilement. Et alors, c'est les polarités. Mais, et ce que j'ajoute, seul le Talmid Chacham comprend l'un et l'autre. Et c'est la Torah qui nous permet de comprendre l'un et l'autre. Alors, c'est pourquoi la règle de la halakha était... qu'on n'étudie pas ensemble hommes et femmes. Parce que c'est très difficile d'ailleurs de faire étudier ensemble hommes et femmes. Je vous donne un exemple. Bien sûr, mais c'est très bien que nous sommes dans un temps anormal.
Mais c'est peut-être justement le.
Écoutez, être la assaut te ferruto. J'ai compris la question. Le principe, c'est être la assaut te ferruto atra. Quand il faut intervenir pour agir, pour sauver la maison est en feu, on inverse les règles. Mais il est évident que. Depuis 40 ans, vous savez que je fais des choses anormales. Imaginez j'enseigne à Paris, c'est anormal. Alors, habituez-vous aux évidences normales. Okay. Alors voilà, je tenais à vous prévenir. Je vous donnais simplement un éclairage. Imaginez qu'il y ait un public mixte en études de Talmud. Je vous dirais la halakha. Les femmes ont le droit d'assister à une étude de Talmud, mais n'ont pas... pas le droit de poser de questions, pour pas faire honte aux hommes. C'est la règle, tu connais cette règle. Alors, je vais vous expliquer. Mon expérience montre que, c'est pourquoi en général, nous avons des cours normaux, femmes pour femmes, et l'étude est très passionnante. Qu'est-ce que j'ai dit ? Et puis, avec hommes, l'étude est très passionnante. Mais, comme ça, public, c'est conférence, c'est pas étude. Vous avez compris ? C'est de la culture. C'est la culture, plus que de l'étude, c'est pour vous donner envie d'étudier, vraiment. Et, quoique je suis très satisfait de l'amélioration du niveau au bout de 40 ans. mais je vous dirais, dans une page de Talmud, les hommes, enfin l'intelligence masculine, suit très bien le raisonnement. Et ne savent pas de quoi il s'agit. Alors que les femmes savent de quoi il s'agit, mais le raisonnement. D'accord. Voilà. Bon, il y a des exceptions partout, c'est évident. Il y a des exceptions partout. Mais, vous savez, pour suivre un Shakla Vetaria de 14 lignes de Talmud, il faut 7 heures de suite pour avoir maîtrisé le raisonnement. Alors ensuite, on devient plus apte, plus apte, plus apte. Il faut que 6 heures et demie. Oui. Oui, des valeurs. Des valeurs, c'est pourquoi. Absolument, absolument. Mais vous savez qu'il y a des... Il y a des... Comment dire, un stade de l'éducation qui est d'abord confié à la mère. Et ensuite seulement, le père doit intervenir. Shmar beni Moussa Rabicha, Valtitos, Torah Timecha. Tout ça, ça s'étudie. Nous avons vécu des siècles, où la tradition juive avait des comportements devenus anormaux, artificiels. Il faut corriger tout ça, ça prend du temps. Et nous sommes... Il me semble que j'ai été, en tout cas en France, dans le monde orthodoxe, le premier enseignant à avoir obtenu l'autorisation des autorités compétentes d'enseigner aux femmes. Ensuite, des écoles de femmes se sont ouvertes partout. Tu ne te rappelles pas de ce temps-là? C'était Amtera, avant le déluge. Et c'est d'ailleurs un maître orthodoxe de Paris qui m'en a donné l'autorisation. Il m'a dit, surtout, ne me demandez pas que je vous autorise des choses que je ne peux pas vous autoriser. Mais il m'a dit, si vous ne réussissez pas, gare à vous. Voilà, vous avez compris le problème. Alors, on revient. Je peux même vous dire qui c'est.
Dans la Kabbalah, le but c'est d'obtenir une réunion. Et jusqu'à présent, ce qu'il y a eu, c'est une séparation, en fait.
Non, il y a des choses. Il y a des choses où pour être réuni, il faut être séparé. Je ne sais pas comment dire ça autrement. Les femmes ont le droit d'étudier la Kabbalah. C'est le but de cette chose. Oui. Oui, c'est le but de cette chose. Et encore une fois, je vous ai dit, si il y a un Torah Tmima sur Devarim qui dit si une femme peut devenir compétente comme juriste du Talmud, mais elle ne peut pas. Bon, c'est un problème trop vaste. Je ne veux pas entrer dans dans ce sujet. C'est un sujet pour lui-même. Peut-être une fois, si vous voulez, on l'étudiera de façon la fille de Rachid. Mais c'est le contraire que je viens de dire. C'est que lorsqu'une femme a exigence de cela, on lui donne tout ce qu'il faut pour savoir. Mais elle enseignait derrière un voile. Pas opaque, comme il y a ici. Attendez, c'est pas fini. Je vous raconte une petite anecdote qui fait partie du folklore israélien journalistique contemporain. Il y a une école rabbinique qui s'est ouverte dans une ville du Negev. Et une femme, qui est une grande enseignante, pas du Talmud, mais de... La Parchanout, c'est Nechama Lebovitch, et qui a 75 à 76 ans, enfin presque l'âge de Sarah lorsque son mari lui a dit que tu es belle. Et je ne sais pas si vous connaissez Nechama Lebovitch, bon, il n'y a aucun danger de quoi que ce soit. Et alors, les rabbins, on l'appelle d'ailleurs Rabbeinu Nechama. C'est Khatsi Nechama. Et les rabbins qu'on appelle les sages de la Torah à Bnei Brak ont sorti une décision rabbinique qu'elle n'a le droit d'enseigner que derrière un voile. Le pays entier a éclaté de rire. Et c'était le cas, on a cité le cas de la fille de Rachid, mais il faut savoir que ce sont des cas exceptionnels. Par exemple, Nechama, c'est un cas exceptionnel qui existe dans notre génération. Et vous n'avez aucune idée ce que des rabbins très, très pieux apprennent d'elle. Il n'y a pas de problème. Alors, il faut donc, c'est tout ça, un code en général, c'est à manier avec précaution et humour. C'est ça que je vous comprends. Mais ça ne veut pas dire que le code ne sait pas ce qu'il dit. Et je peux vous dire déjà, commence à avoir un peu l'âge, je peux vous dire, il n'y a pas un détail du Shulchan Aruch qui ne soit pas absolument vrai, que c'est comme ça que ça doit être, mais nous ne sommes pas normaux. Est-ce que vous êtes clair ce que je veux dire? Parce que le Shulchan Aruch, c'est finalement la vérité adaptée à la réalité. La Torah connaît la réalité. Alors c'est pourquoi, lorsqu'elle dit ce qu'elle dit, c'est absolument vrai, parce que c'est relié à la réalité. Donc, chaque fois que vous trouvez un détail dans le Shulchan Aruch, le vrai Shulchan Aruch, il faut savoir que c'est une vérité absolue. Ça ne veut pas dire qu'on est à pratiquer comme ça. Ça dépend des autorités du temps qui doivent diagnostiquer comment sont les juifs de ma génération. Est-ce que c'est clair ce que vous dites? Je me rappelle, quand j'étais enfant, on avait les vieux exemplaires du Fravao, il était à Amsterdam. Je ne sais pas si vous voyez d'où ça vient. Et sur la page de garde, il y avait trois lettres. Je crois que je vais les citer une fois. Aleph Tav Shin. Trois lettres sur la première page, et après le Fravao commence. Les bibliographes se cassent la tête là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire ces trois lettres? Je vais vous dire la réponse, ça va vous faire sourire. C'est Al Tehi Shoté. C'est-à-dire, avant d'ouvrir le code, on nous avertit, sois pas fou. C'est le code que tu vas ouvrir. ça veut dire, sois pas idiot. Okay. Vous avez compris? Je pense que c'est clair. Ça veut dire, si on n'a pas d'humour, c'est pas sérieux. Voilà, c'est clair. Alors, je peux continuer. Okay. Mais vous voyez, toutes vos questions renvoient à des études pour elles-mêmes. C'est évident. En tout cas, je répète simplement cette consigne. On ne peut pas relier n'importe quoi avec n'importe quoi, n'importe comment, même s'il y a des associations d'idées qui sont suggérées. D'autant plus que nous raisonnons en français et que très souvent les associations d'idées viennent des termes français et pas du tout des concepts hébraïques dont il s'agit. Je crois que c'est clair. Oui, vous avez une question.
Oui.
Non, la Torah et la langue hébraïque, c'est encore un énorme sujet. Je vais vous dire cela. Jacob, c'est en fin de compte le descendant d'une lignée des Hébreux qui a sa propre culture, sa propre langue, sa propre tradition de derecheret, c'est-à-dire de civilité, de politesse, de valeur morale, convivialité. C'est un peuple qui existait. Ne croyez pas que le peuple d'Israël à qui la Torah a été donnée, c'était des étudiants d'université à qui un professeur s'est révélé du ciel pour dire « Si vous avez du temps, on va faire un séminaire. » C'est pas du tout ça. C'est un peuple auquel le Créateur s'est adressé à un certain moment de son histoire parce que ce peuple était arrivé à un niveau de maturité intellectuelle, spirituelle, pour pouvoir recevoir la loi du Créateur au nom de l'humanité entière. C'est pas une affaire d'école. Est-ce que c'est clair ? Top. Par conséquent, l'hébreu existe depuis les Hébreux. La Torah, elle est dans l'éternité de la vérité. Et c'est au long de 2000 ans d'histoire qu'en fin de compte, de l'identité hébraïque, une société, la société d'Israël, a été apte à avoir relation avec cette révélation de l'absolu de la Torah. Et je pense que peut-être suffisamment clair ce que je dis là. Je crois que nous sommes gênés par cela. À travers 2000 ans d'exil, nous nous sommes tellement artificialisés que l'on croit, je vais vous donner une image que j'emploie souvent. Il y a des gens qui croient que Dieu a créé une synagogue, il a mis un monde autour, et que c'est ça l'histoire. La vérité, c'est l'inverse. Il a créé un monde, et dans le monde, il y a une synagogue. Alors, il ne faut pas croire que... Oui, vous avez compris. Et c'est deux conceptions du judaïsme radicalement différentes. À la limite, il y a ce risque-là de croire que Dieu a créé une école juive, et puis il a mis un monde autour. Le centre Rashi, et puis un monde autour. C'est pas du tout ça. Et il faut sortir de cet artificiel, et alors on comprend qu'il y a une histoire concrète d'une tradition de culture, celle des Hébreux, et qui est que finalement, Dieu n'a révélé ce qu'il avait à révéler qu'à ceux qui étaient capables de l'inventer, même si on ne l'avait pas révélé. C'est-à-dire, c'est une élaboration d'identité qui a pris 2000 ans. C'est clair. Top. Je vous ai dit une fois, et puis je termine là-dessus, on termine le chapitre, c'est ceci. Vous avez dû remarquer que suivant l'identité de l'homme qui lit la Bible, c'est un autre livre. Voilà, c'est ça que vous comprenez. Et quand c'est l'hébreu qui lit la Torah, c'est la Torah. S'il la lit en hébreu, c'est la Torah qui lit. Bon, vous comprenez ce que je veux dire. Et d'où ça vient cela? De 2000 ans d'histoire des Hébreux. À un certain moment, apparaît l'identité de Hever, qui est le principe du dévoilement de cette entité hébraïque qui se prépare depuis le premier homme, l'ancêtre d'Abraham. Puis Abraham sort de l'exil de Mésopotamie, il engendre Isaac, qui engendre Jacob. C'est à ce moment-là que l'identité hébraïque en Jacob est capable de devenir Israël et de recevoir la Torah. Et cela se fait qu'à la sortie d'Égypte, lorsque la descendance de Jacob est une nation. Ça, nous avons appris hier avant-hier. Voilà ce qu'il faut dire. Et aujourd'hui, encore une fois, nous sommes très artificialisé par le fait que ça passe par des livres, des cahiers, des cours, des séminaires. Non, c'était la vie d'un peuple. Ça redevient, d'ailleurs. Alors, on continue.
On est confronté à, disons,
Attendez. Juste une minute. Je ne sais pas comment dire. Vous recevez un enseignement de différents enseignants qui sont à un niveau de connaissance plus élevé. Et vous voulez, vous, qui êtes à un niveau de connaissance inférieur, vous mettre au-dessus et unifier un peu de patience. Okay? Est-ce que c'est clair? Bien fait. Bon. Alors, on finit le paragraphe. Nous sommes à cette ligne qui commande « Be'sechadarat ou nifsal ou mistalek mina adam ». Vous voyez, quand cette valeur qui est confiée à ce vase s'altère, elle, la Torah mistaleket mina adam, elle quitte l'homme. « Lechach tzrichim shmira beyoter ». Et c'est pourquoi il faut une préservation beyoter grandement. Cette préservation, le Maharal nous a enseigné, c'est les vertus morales préalables dont l'essentiel est l'humilité et la simplicité. Je crois que si on a appris ce chidouche dans l'étude de ce chapitre, c'est très important. Peut-être que vous garderez cela comme consigne, qu'on dit comme viatique. Je crois que vous avez un discours d'enseignement brillant mais trop compliqué, construction trop construite. Eh bien, le Maharal nous a enseigné, c'est pas Torah, c'est philosophie, même s'il y a une phrase qui contient quelque chose d'important. C'est clair ce que c'est dit ? On continue. Ve'elu shlosha mashkin, et ces trois breuvages, hem yain vechalav umayim, sont le vin, le lait et l'eau. Ulchach nimshelet haTorah ve'elu shlosha mashkin. C'est la raison pour laquelle nous dit le Maharal, ça c'est la procédure, le procédé du Midrash, le verset a comparé la Torah a précisément ces trois breuvages qui sont, dans le cas d'être, d'avoir beaucoup de valeur, c'est la nourriture de la vie, okay, aux différents niveaux de nécessité de l'être que nous sommes. Un homme sans vin, sans lait, sans eau, sans vin et sans lait ne boit plus. Okay. Et, bon, vous comprenez, je vais vite. Et puis, ce sont des breuvages qui s'altèrent facilement. Chez la Torah, Kelulam in Shlosha Midot, parce que la Torah enferme, implique trois qualités, trois modalités de la qualité, de la vertu. Ubishpil kach nikra Torah tlitai. C'est pourquoi c'est un texte de la Gemara de Shabbat. La Torah est appelée triple. Il y a un texte, vous connaissez la Gemara de Shabbat, c'est que la Torah, qui est à trois niveaux, a été donnée à la tribu du troisième fils de Jacob. Je paraphrase un peu parce que c'est la Gemara de Shabbat, on pourra la citer tout à l'heure. Le troisième jour, appelé le troisième jour, au troisième fils de... Alors, qu'est-ce que c'était ces trois niveaux? Tritaï, dans la mer. Je vais pas dire trinitaire, hein, c'est pas ça. C'est à trois niveaux. C'est Torah, Nevim, Ktuvim. C'est en général l'explication que vous avez chez les commentateurs de ce texte du Talmud. Il y a trois niveaux de Torah dans la Torah. Ce qu'on appelle la Torah, le Pentateuque, Nevi'im, les prophètes, les Ktuvim, les hagiographes, les esprits saints, les trois parties du Tanakh. Mais ici, le Maharal explique que la Torah, en tant que contenu de vérité de la loi de Moïse, a trois niveaux de dévoilement de la vérité. Il va pousser, par allusion, il n'en dit pas plus, mais je vais essayer un peu d'élargir, va pousser cette comparaison que le Midrash a mis en évidence entre la Torah d'une part, l'eau, le vin et le lait, à ces trois niveaux de sagesse qu'il y a dans la Torah, Umidat Hamayim Ve'ayayin Yadoa, et il nous dit, et la définition par le vin et par l'eau, c'est connu, et je reviendrai là-dessus, Ve'achalav Memutzar, et le lait, c'est intermédiaire, Benehem, entre les deux, Ki Achalav, car le lait, Minadam, vient du sang, Kidam nerchar, car un sang. Le mot veut dire corrompu, mais je dirais élaboré. Vena asa, chalav, verbenze. Et devient du lait et comprend cela. Chaque fois que le Maharal dit verbenze, comprend cela, ça veut dire qu'il faut étudier pendant des heures sur deux lignes. Okay. Il dit il y a des choses connues, si tu ne le connais pas, c'est que tu ne les connais pas. Mais voilà ce que je t'ajoute, comprends, étudie. Alors je vais expliquer très rapidement. Essayez d'expliquer. Voilà. La Torah est comparée au vin, au niveau qu'on appelle le sod. Ça veut dire le niveau de sagesse qu'on étudie dans la Kabbalah et qui est le niveau d'initié de la Torah. C'est comparé au vin. Nirnas, Yahin, Yassa, Sod. Vous savez cela. Donc, c'est la Torah du Nistar. Le sens caché de la Torah est comparé au vin. Et le sens dévoilé est comparé à l'eau. C'est le pshat. Et ce qui est l'intermédiaire qu'il appelle le chalav, qu'il appelle le lait, eh bien, c'est au niveau du drash. Voilà, je n'en dirai pas plus, je crois que c'est suffisamment clair. Ça veut dire qu'il y a un sens précis dans chaque comparaison. Lorsque le verset parle de la Torah comparée à l'eau, c'est la Torah qui étanche la soif d'un pshat, du sens simple de ce que l'on cherche en cherchant le sens de la destinée de l'homme. Lorsqu'elle est comparée au yaïn, au vin, c'est lorsque la Torah dévoile ou enseigne ce qui est caché, les raisons profondes, métaphysiques de pourquoi les choses sont ainsi. Et le drash, ça veut dire cette pensée très riche de l'enseignement de la loi orale qui relie, sans en parler, le sod au pshat. Je pensais. Le remez, c'est grâce au remez qu'on peut avoir les trois niveaux. Mais rappelez-vous ce que je vous ai dit hier. C'est que, après si vous voulez, je vous donnerai une définition des quatre niveaux, mais ce que je vous ai dit hier, le Maharal a l'habitude de ne parler que de la structure inférieure des mondes, les trois inférieurs. Et alors voilà, le pshat, ça veut dire que c'est la lecture simple, les mots ayant le sens des réalités auxquelles ils renvoient dans le monde extérieur manifesté dont nous avons perception. Torah Taniglé. Lorsque le verset dit tu ne mélangeras pas le lait et la viande, le verset dit pas ça comme ça, mais je pense à vous autres. Le lait, c'est du lait qu'on achète à la laiterie, et la viande, c'est de la viande qu'on achète à la boucherie. Le yaïn, tu ne mélangeras pas le lait et la viande. Qu'est-ce que c'est que le lait caché et la viande cachée? Je vais essayer d'expliquer ça. Qu'est-ce qui fait que le lait est le lait? Alors, c'est ce lait-là dont parle le Sod. Et qu'est-ce qui fait que la viande, c'est de la viande? C'est ce. Oh, ça, c'est le saut. Le drash, ça veut dire que chaque enseignement de la Torah pris pour lui-même devient un sujet d'étude, un sujet de sagesse, et le midrash dévoile toutes les dimensions de connaissance de ce point de sagesse pris pour lui-même. Le remez, c'est l'étude de la relation de cet enseignement de sagesse avec d'autres qu'il y a dans d'autres versets. Ceci fait allusion à cela. C'est le remez. Drash, c'est chercher, approfondir ce qu'il y a à l'intérieur d'un enseignement et le dévoiler, et le déployer. Alors, vous avez donc pshat, qui correspond à la marasia. J'ai dit sans traduire pour ceux qui sont habitués à ces termes. Le remez, qui correspond à la mayetira. Le drash, qui correspond à la à bria. Et le sod, qui correspond à la atzilut. Donc. Oui, là vous pouvez avoir énormément de parallèles avec les différents âges. Avec... Mais rappelez-vous qu'il y a un passage dans la Gemara auquel vous devez vous référer. Ça s'appelle le Pardès. C'est différents niveaux. Le jardin de la connaissance. Le mot de Pardès est tardif. C'est un mot persan qui s'est introduit dans la tradition juive à la suite de l'exil en Perse. Et c'est ce mot qui est devenu en français le mot de paradis. Okay, le Pardès. C'est-à-dire le jardin. Et il y a cette histoire des quatre rabbins qui sont entrés dans le Pardès, et l'histoire de Rabbi Akiva, vous connaissez cela, je vous y réfère, c'est que celui qui ne rentre que dans le pshat, voilà ce qui lui arrive, celui qui ne rentre que dans le drash, voilà ce qui lui arrive, que dans le remez, voilà ce qui lui arrive, mais celui qui, comme Rabbi Akiva, rentre en paix, dans le Sod, sort en paix du Sod et enseigne la Torah à tout Israël. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, voilà, alors nous allons faire une petite hapsaka. Et pour la deuxième partie, je vous propose de prendre le dernier paragraphe qui va élargir cet enseignement.
Alors,
paragraphe suivant, nous allons étudier le dernier paragraphe un peu plus en détail. Donc, nous sommes ici, à la page 11, en bas de la première colonne. Alors, « Ube perek kesan me'averin » dans la Maseret Elouvin, « Amar Rabbi Eliezer, mai dirtiv lechayav ka'arugat abosem » C'est un verset du Cantique des Cantiques, où parmi les louanges du bien-aimé à la bien-aimée, alors il y a cette expression, « Ses joues sont comme le parterre des parfums ». Vous savez, arugat, c'est comme on dit, un parterre de plantes, un parterre de fleurs. Et bosem, c'est les plantes parfumées, d'où on tire le parfum. Alors, il y a un enseignement dans cette Gemara à ce sujet. Que signifie ce verset? C'est toujours un exemple d'implication du drash, du midrash. Im hada mesim atzmo ka arugat. Si l'homme fait de lui-même, accepte d'être comme un parterre chez Akol Dashinbo, que tout le monde piétine, Torato Mitkayemet, sa Torah se réalise. Cela veut dire que si on a une humilité telle que l'on peut accepter d'être piétiné, alors la Torah que l'on représente finit par se réaliser. Vous voyez, c'est d'étape en étape, de niveau en niveau, comment le Maharal accentue le sérieux, l'importance de cette vertu d'humilité, toujours lié à la simplicité. Dans cette expression « Torato mitkayemet », le terme « mitkayemet », je voudrais essayer de l'éclaircir en français, le vocabulaire me manque un peu. Ça veut dire non seulement elle existe, mais elle a un « kiyum », elle persiste. Elle est, par exemple, de ce que nous avons parlé tout à l'heure, « traverser les générations »,« ze mitkayem ». Vous avez dans le premier chapitre du Pirkei Avot, Al Shlosha Dvarim Aolam Omed, sur trois choses, trois valeurs, piliers, le monde se tient. Ensuite, on étudie ces trois valeurs pendant tout le chapitre, et à la fin, vous avez une Mishnah qui reprend le même principe. Au début, la première Mishnah, c'est Al Shlosha Dvarim Aolam Omed, sur trois valeurs, le monde tient, debout, Omed, à la Torah, à la Avoda, à l'Uminut Rasadim. La connaissance de la Torah, la pratique de la Torah, et la conduite de charité de chacun avec l'autre. C'est les trois grandes dimensions des valeurs principales. Et le chidouj de la Mishnah, c'est qu'il faut qu'elles soient ensemble. Al-Shusha Devarim Aolam Omed, c'est pas sur chacune d'entre elles isolées. Il faut qu'elles soient ensemble. C'est indiqué par beaucoup de commentateurs importants, plus très anciens, à la Torah, ve à la Oda, ve à l'Gimut Rasadim. Il faut les trois ensemble. Le chidouj de la Mishnah, c'est ce vav. Hein? Que la Torah, c'est une valeur importante, on le sait. La Avoda, Gemut Hasadim. Mais la Mishnah enseigne que si elles ne sont pas les trois ensemble, aucune des trois ne réussit, et le monde s'écroule. C'est un sujet pour lui-même. Et à la fin de la Mishnah, on a, je la reprendrai dimanche après-midi, à la fin du chapitre, on a une autre Mishnah, Al Shlosha Dvarim Ha'olam Kayam. Sur trois choses, le monde se tient stable, définitif, irréversible. Les valeurs du début, c'est le commencement d'une histoire. Il faut arriver à les unifier de manière telle que cela devienne kiyum. C'est entendu en hébreu? Donc, et c'est Aladin, Alaemed, Vala Shalom. Alors nous verrons très rapidement dimanche après-midi, comment Avoda devient Din, Torah devient Emet, et Yom Trasadim devient Shalom. Alors ces trois valeurs sont unifiées, alors le monde est Kayam. C'est cette notion de Mitkayem que je voulais mettre en évidence. Avoda devient Din, Torah devient Emet, et Gnut Hasadim devient Shalom. Alors là, c'est irréversible, définitif, acquis, et le monde devient déjà en préfiguration de ce qu'il sera, lorsqu'il sera le monde de la vérité, le monde vrai, disons, en lama emet, dans un autre sens que le sens qu'on emploie habituellement. Quand on dit, je tiens à expliquer cela, dans la formulation traditionnelle de ces principes de sagesse, lorsque vous entendez dire « il est dans en lama emet », ça veut dire « il est mort, après la mort, le monde de vérité ». Non, c'est un autre sens, en lama emet, le monde vrai, qu'on appellera bientôt le monde à venir. Vous allez retrouver autre question. Et nous avons une Mishnah que j'ai citée hier, ou avant-hier, c'est Kolmi Sheirat Haito Kodemet la Chochmato, Chochmato Mitkayemet. Vous vous rappelez ? Celui qui, de qui la crainte de sa faute précède à la fois logiquement et d'importance sa sagesse se réalise. Mitkayemet. Et Kolmi Sheirat Haito. C'est la proposition inverse. Alors, on comprend l'expression chormato, sa sagesse, parce que chacun a une capacité de sagesse différente. Et on comprend mal, moins bien, la deuxième expression, irat heto, la crainte de sa faute. En hébreu, il n'y a pas sa crainte de la faute, mais la crainte de sa faute. Et on enseigne à ce sujet que chacun a une tendance, une propension, à une faute particulière. Il faut qu'il le sache, connais-toi toi-même. Et la crainte de la faute, que quand il fait une faute, c'est cette faute qu'il fait, de sa faute en particulier. Donc là, il y a une pression importante. L'un de mes maîtres a enseigné cela. Pour pouvoir connaître cela, se connaître cela, bien sûr, on n'arrive jamais tout seul. Il faut être aidé par un guide qui arrive à faire une analyse de l'identité et de vie intérieure. J'ai pas dit ni psychanalyste ni psychologue, peu importe, mais un ami, ça suffit. Et bien sûr le maître. Et le matin au réveil et le soir avant de s'endormir, il y a un relâchement de la conscience. Et c'est là que la conscience est envahie par les images qui sont les images privilégiées de la tendance à ce qu'on ferait si on se laissait aller à faire une faute. C'est-à-dire pour se connaître à ce niveau-là, il suffit. Cette connaissance, on peut l'obtenir assez rapidement, être attentif à ce qu'on se voit rêver au moment où on va s'endormir, au moment où on se réveille. C'est là que les désirs inconscients refoulés se défoulent et qu'on voit ce qu'on ferait si on le faisait. Est-ce que c'est clair ce que je dis là ? Et il y a deux niveaux. C'est là qu'on sait qu'est-ce que c'est qu'on aime lorsqu'on aime et qu'est-ce que c'est qu'on haït lorsqu'on haït. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé, mais les deux niveaux. C'est-à-dire, c'est là que se dévoile la tendance à la vertu ou la tendance à la faute propre à chaque individu. C'est en te couchant et en te levant. C'est aussi relié au fait que c'est à ce moment précis qu'il faut dire le Kriyat Shema pour lutter contre cela. Bon, vous avez compris à peu près le problème. Alors on continue. Premier enseignement, celui qui est capable d'être comme un, étymologiquement comme un pontife. Vous savez, qu'est-ce que c'est un pontife ? C'est un mot pour dire prêtre, mais en latin, il y a une précision que je voudrais essayer de décrire. Le pont, c'est celui qui fait le pont, le pontife. C'est le prêtre préposé au pont. C'est pas qu'il joue au bridge, mais... Alors, le pontife, il faut qu'il le sache à l'avance, comme le pont. Pour que les gens passent d'un côté à l'autre, il faut passer sur lui, qui est prêt à se laisser piétiner comme les traverseurs de pont. Vous avez compris ce que je veux dire. Faire le pont, c'est pas simple. Rappelez
l'histoire d'Esther.
En quel sens ?
Vous avez dit qu'elle était un objet.
Ah, karka, je sais pas si c'est moi, mais karka aolam. On s'est demandé, mais c'est interdit d'être comme ça, la femme d'un roi perse. Alors, le Talmud explique que c'est un cas particulier. Elle a servi de véhicule à un dessein, un projet très important, et que au moment de la relation avec Assuérus, elle était comme Karka Aolam, le sol du monde. Okay. C'est à ça que vous faites allusion. Oui. Je ne sais pas si c'était avec moi. On continue. Ikade Amre. Certains disent sur le même verset, Immesim Atzmo ke Bosem. S'il fait de lui-même comme un parfum. Chez Zé, quel est le mot, je ne vois pas. Kebosem. Ah, comme ce parfum, pas n'importe quel parfum, ce parfum, chez Akol une basmi mimenu, dont tout le monde se parfume. Voilà ce que je veux dire. Et il ne faut pas que, alors, sa Torah se réalise. Une Torah qui devient trop spécifique, qui ne peut concerner que les amateurs de tel parfum. Vous avez compris ce que je veux dire. Qui ne s'adresse qu'à une seule clientèle de famille spirituelle, intellectuelle, trop particularisée, trop différenciée, ça ne tient pas le coup. C'est ce que je veux dire. Il faut que ce soit indifférencié. Vous voyez, c'est-à-dire que tout le monde puisse en profiter. Que ce soit une Torah clalite et pas une Torah partisane. Je dirais quelques phrases là-dessus. Quelle est la situation sociologique de ce problème aujourd'hui ? Eh bien, nous avons énormément de ce qu'on appelle les chitotes, des manières d'être juif, des manières de se relier à la Torah, des manières d'enseigner la Torah, des manières de... Okay ? Tant que l'unanimité de l'ensemble est préservée, ce sont des chitotes d'enrichissement. Si l'unanimité de l'ensemble n'est pas vécue, ça devient des hérésies. Alors qu'à l'origine, ce sont des vérités absolues. Mais particularisées, spécifiées trop, ça devient caricatural et négatif. Alors, c'est l'état actuel encore. Je suis un peu partisan dans ce problème. Dans toutes les écoles d'enseignement, on enseigne une Torah vraie, mais très particulière. De notre temps, il n'y a eu que l'enseignement du Rav Kook qui a récapitulé une Torah du Klal, qui concerne tout le monde. Est-ce que c'est clair ce que je dis ? Réfléchissez bien à cela. Les mots ont un sens important. Ce dont nous avons besoin dans la génération actuelle, où la nation se reconstitue à partir des communautés atomisées, c'est une Torah du Klal Israël, qui concerne tout le monde, les non-religieux y compris. J'allais dire, mais ça aurait été peut-être un peu paradoxal, les religieux y compris. Et c'est la chose la plus difficile, peut-être. Et lorsque, en Israël, nous étudions, alors nous pouvons étudier, recevoir des enseignements de vie de n'importe quel chita. Que ce soit chassid comme ça, mitnaget comme ça, et temani comme ça, sfaradi comme ça, baba salé, baba sucré, tout ce que vous voudrez. Mais... Enfin, Baba Salé, ça va encore. D'ailleurs, je l'ai connu, c'était un très grand temps. Baba Sucré, alors là, Dieu préserve. Bon, c'est autre chose. Mais je veux dire que on peut respirer les fleurs de n'importe quel jardin. C'est joli. Mais ce qui manque pour la nation, et si cela n'est pas atteint, ce sera catastrophique, c'est une Torah du Klal, une Torah de la nation. Et vous vous rendez compte à quel point nous vivons les convulsions de cette naissance. C'est le Mashiach. Voilà, regardez comment le Maharal était à prophétiser, au fond, notre temps. J'ai fait allusion à cela d'une autre manière. Hier et avant-hier, il a enseigné pour nous. C'est pourquoi, il n'y a pas de hasard à ce niveau-là, à aucun niveau d'ailleurs, c'est pourquoi c'est de notre temps que le Maharal est étudié. Et pas seulement le Maharal, je crois qu'il y a un deuxième pilier de la... indépendamment de tous les maîtres qu'on vous a cités, qui vont dans la même lignée, qui commence avec Judas Lévi d'ailleurs, un deuxième pilier de la revivification de l'âme juive, c'est le Rav Nachman de Bratslav. Mais cela, nous aurons des séminaires d'autre part. Et il a aussi étudié de notre temps. Oui, si vous voulez, on peut en faire. Ces deux phénomènes assez parallèles qui apparaissent avec un troisième qui est le Rav Chaim de Volozhin. Ces dernières années, ces trois grands maîtres sont étudiés partout. Nous avons commencé il y a 40 ans, ici au QEJ, les premiers séminaires avec eux d'ailleurs. Et puis maintenant, c'est vraiment à l'échelle assez universelle parce qu'il y a là le pressentiment d'une Torah du Klal. Je crois que c'est suffisamment compris. Okay. Encore une fois, on peut être à l'aise dans n'importe quelle synagogue, comme touriste. Mais on est chez soi que dans au côté de la Maharabi, parce que c'est tout le monde, ça appartient à tout le monde, parce que c'est tout le monde qui est chez soi. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire ? Par exemple, c'est une limite que je vous dis là. Et le Rav Kook emploie beaucoup cette expression quand il dit le temps est arrivé, le monde est en train de se parfumer. Alors là, mitvasem. Et c'est certainement relié à cela, c'est-à-dire d'un parfum que tout le monde aime. Parce qu'un parfum qui n'a que sa clientèle particulière, on appelle ça en hébreu Anshe Shlomenu. Et vous comprenez en hébreu, je ne sais pas comment on dit en français, les gens de notre caste, et les autres, ah, les autres, c'est des autres. Eh bien, chacun, encore une fois, a sa propre odeur, je ne sais pas comment dire. Vous avez compris. Et puis, alors, il y a des odeurs de sacristie dans les synagogues, c'est bizarre. Alors,
je crois quand même que depuis que les femmes commencent à étudier, ça aide beaucoup.
Je crois que c'est très lié. Je vais vous faire un compliment. Vous les femmes, et ce Raffou qui nous l'a enseigné, nous sommes une des générations où les femmes d'Israël, juives, ont le plus de valeur qu'elles n'ont jamais eu. Bon, je referme la parenthèse. Et il a souvent enseigné cela, c'est par les femmes qu'Israël a toujours été sauvé. On les appelle Nashim Satkaniot. Alors il n'y a pas de doute, nous sommes dans une génération, je parle d'une expérience de pédagogue, où les femmes, à niveau égal, ont beaucoup plus de valeur que les hommes. Il y a des exceptions partout. Et c'est très rassurant, ça veut dire que la nation est protégée. Bon, je referme la parenthèse, c'est un autre sujet.
Est-ce qu'à ce sujet, vous pourriez expliquer en deux mots, je pourrais dire plus de temps, l'explication dans les cantiques de la petite sœur.
Ahot la nuktana beshadaim en la. Comme vous dites, il faut trop de temps.
Oui, un mot.
Israël est appelé la petite sœur des nations. Et il faudrait dire la petite sœur des riches, c'est elle qui est pauvre. Et alors, le verset parle d'un problème avec qui l'a marié. On ne sait pas encore qu'elle est épanouie, où on va lui trouver son chidour. Bon, si vous voulez, un jour on étudiera. Et alors, on continue. Toutes ces choses, on est dans la dernière ligne de la première colonne. C'est pour nous dire que le sage doit ressembler et se lier à l'intellect. Tel que nous l'avons défini, l'intellect vrai, c'est l'intellect simple, le tsechel pashut. Et il n'y a que ce qui est simple, qui est unanime, qui concerne l'universel. Au fond, ce qui a été une des raisons, c'est vrai au niveau sociologique, c'est vrai au niveau de la transmission de l'étude, de cet éclatement, de cette atomisation de la Torah dans le peuple juif, c'est cette... cette situation parcellaire, nous sommes des parcelles d'un peuple éclaté. Et alors c'est trop différencié à chaque fois. Alors, là c'est un sujet très important. Je veux simplement le relier au thème du retour aux sources. Lorsque le retour aux sources s'arrête à un passé antérieur qui en son temps a été de très grande valeur, mais qui est une manière différenciée d'être l'être d'Israël en général, c'est un échec radical. Il faut remonter à l'indifférencié le plus indifférencié. Si on s'arrête à un différencié typé, c'est une impasse, même si on arrive à réanimer des cadavres, c'est des cadavres réanimés et pas plus. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Okay. Et je crois que la société juive n'arrive pas à surmonter ces obstacles. On parle beaucoup de retour aux sources, mais on retourne à des ruisseaux. Qui n'ont pas d'avenir, parce qu'ils avaient leur avenir était au passé. Je ne sais pas si c'est clair. C'était des stratégies de survie de conservation, qui ont été très riches, très vivantes. Et puis voilà, on n'a pas le courage de remonter à la source de l'origine. On s'arrête à une étape du passé qui n'a plus d'avenir. Parce que le passé n'a jamais d'avenir. C'est que le passé le plus antérieur qui a un avenir. Alors il y a une erreur de la fidélité. On reste fidèle à une des tentatives du projet et pas au projet lui-même. Et être fidèle à une tentative du projet, à un stade de la tentative du projet, c'est être infidèle au projet. C'est grave ce que je vous dis là, mais c'est clair. C'est vrai ? Et c'est vrai. Or, pour l'histoire du peuple juif, au bout de 2000 ans, l'indifférencié général qui est la source de toutes les manières des juifs, c'est l'hébreu. C'est-à-dire la manière d'être hébreu. C'est être juif en hébreu, être juif comme hébreu. Ça s'appelle, dans le vocabulaire de la sociopolitique contemporaine, être israélien. Les mots ayant leur sens simple. Alors, tant que le retour aux sources n'est pas jusque-là, c'est, encore une fois, ça va à l'encontre de ce que cette Gemara dit, c'est un parfum, mais un parfum pour nez spécialisé. Voilà, c'est clair. Alors, on continue.